garde aux voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons des migrations ouest-africaines. Quels sont les mécanismes qui poussent les jeunes à prendre la route ? Les routes de la migration ouest-africaine sont désormais bien documentées via la Méditerranée, mais comment se prennent les décisions du départ pour les jeunes ? Quel est le poids de la famille ? Comment se finance le périple ? Le journaliste Raphaël Kraft a refait le chemin en sens inverse, des Alpes du Sud à la Guinée-Conakry, pour comprendre pourquoi et comment des jeunes, notamment des mineurs isolés, tentent l'aventure, comme ils disent, malgré les dangers et le non-respect de la protection des mineurs par les autorités françaises. Bonjour Raphaël Kraft.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter, vous publiez « Les enfants de la Clarée », un livre engagé dans lequel vous accusez l'Union européenne, l'Office des migrations internationales de financer notamment des campagnes inutiles pour décourager les jeunes de partir au lieu de contribuer réellement au développement du pays. On entendra aussi le point de vue d'Eladj Mohamed Diallo, qui est président de l'Organisation guinéenne pour la lutte contre la migration irrégulière. Et au téléphone avec nous, Esther Botta-Sompare, anthropologue à l'Université de Cancan en Guinée. Bonjour Esther Botta-Sompare.
Bonjour.
Vous êtes aussi chercheuse invitée à l'université de Bayreuth en Allemagne et vous recueillez les témoignages de candidats au départ, notamment bien sûr dans la jeunesse guinéenne. Si c'est votre cas, les voisins et les voisines, quel que soit votre pays d'ailleurs et votre âge, vous avez bien sûr la parole en nous appelant sur notre compte WhatsApp. N'attendez pas la fin de l'émission. Vous nous téléphonez au 33 7 64 45 51 41. Quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Achille est à Douala, au Cameroun, et nous dit « Beaucoup de jeunes préfèrent partir parce que les politiques gouvernementales envers les jeunes n'existent pas dans nos pays ». Brice, également au Cameroun, à Yaoundé, cette fois, nous envoie un poème en souvenir d'une amie disparue dans la Méditerranée. « Pourquoi partir ? Parce que notre savoir est une imbécilité pitoyable et oiseuse. Partir est notre devise. Frôler le sol occidental restera notre victoire. J'écris avec les larmes. » L'intégralité de son poème est à retrouver d'ailleurs sur notre page Facebook. Je rappelle que la Méditerranée centrale est une des routes migratoires les plus meurtrières selon les Nations Unies. Plus de 760 morts en Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai 2021. 1400 pour l'année 2020. Un message de Mongeski à Brazzaville, au Congo. On n'est jamais mieux que chez soi, dit un dicton. Mais le peuple quitte son chez soi au péril de sa vie. C'est ce qu'il y a de pire. C'est une honte pour nous et une grande tristesse. Voilà, des messages... Et des points de vue très partagés, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Raphaël Kraft, votre enquête, Les enfants de la Clarée, commence dans les montagnes enneigées des Alpes du Sud, entre l'Italie et la France, des voies de passage qui sont empruntées par les migrants. Et votre livre s'achève presque en Guinée-Conakry. Vous avez refait la route en sens inverse. Racontez-nous pourquoi.
Alors, je n'accuse pas, hein. Moi je documente. Alors certes, le livre peut paraître engagé, mais ce ne sont que des faits. Et ces faits, ils commencent effectivement la nuit du 11 novembre 2017 dans le col de l'Échelle, qui est situé au-dessus de Briançon, donc dans les Alpes occidentales, dans un col qui est le plus petit, le plus bas des Alpes occidentales avec celui de Montgenèvre et par lequel effectivement... De plus en plus de ressortissants ouest-africains ont commencé à passer à partir de l'année 2016, mais surtout à partir de l'été 2017. Et je participe à une maraude dite solidaire, c'est-à-dire c'est un groupe de guides de haute montagne, d'accompagnateurs en montagne qui ont décidé de sauver des vies. Et au détour d'un bosquet, nous tombons nez à nez avec quatre enfants, originaires d'Afrique de l'Ouest, dont trois Guinéens, lesquels sont transit froid, leurs chaussures sont trempées, ils sont en train de geler. Et donc le maraudeur les prend en charge et pour les descendre jusqu'à Briançon et les mettre au chaud. Et à ce moment-là, nous sommes arrêtés à un barrage de police Et quand je dis nous sommes arrêtés, c'est également les journalistes. Donc ça a été quelque chose d'assez traumatisant, rien de comparable au traumatisme vécu par ces jeunes, évidemment. Et j'ai eu l'intime conviction au moment où ces enfants ont été embarqués par la police qu'ils allaient être envoyés dans la montagne. Ce fut le cas. Ils ont été abandonnés à 1h du matin par la police à la borne frontière.
Alors qu'ils se déclarent mineurs, hein, 16 ans.
Alors qu'ils se déclarent mineurs et que, effectivement, la minorité est déclarative. Et ça n'est qu'après un passage devant le juge qu'elle est déclarée officielle, en tous les cas selon l'État français. Et donc, à partir de là, je me suis lié d'amitié avec un certain nombre de personnes de cette vallée et du petit village de Névache. Et un an plus tard, par le biais de l'association Globe Reporter, qui est dirigée par Alain de Valpo, qui est un connu des auditeurs et des auditrices d'RFI, je suis parti en Guinée comme envoyé spécial de cette classe de Névache et d'autres classes françaises pour tenter de leur donner un éclairage sur ce pays et aider ces jeunes à comprendre pourquoi tant et tant de Guinéens et notamment en majorité des mineurs déclarés tentaient le passage.
Est-ce que les jeunes aujourd'hui ont vraiment, depuis le nombre d'années que les routes migratoires sont très documentées, est-ce qu'ils ont vraiment connaissance des dangers ?
Écoutez, moi je me base sur les recherches qui ont été publiées en ce sens et notamment toutes les recherches critiques sur ce qu'on appelle le management de la perception. C'est-à-dire que depuis les années 90 en Europe centrale, début des années 2000 en Afrique, l'OIM avec un certain nombre de pays européens, en tous les cas occidentaux.
L'Organisation internationale des migrations.
Pour les migrations, tente de faire changer l'idée selon laquelle il serait bon de pouvoir voyager jusqu'en Europe. Donc il y a des campagnes d'influence, des campagnes de propagande qui touchent absolument tout le monde, une cooptation du monde des arts et de la culture pour essayer d'insuffler un message sédentariste et dire que la route est dangereuse, il ne faut pas partir. Tous les chercheurs, il n'y en a pas beaucoup, qui travaillent sur cette question, constatent que
Oui, mais ce qui est aussi une réalité, la dangerosité de la route est incontestable, si on regarde les chiffres.
Bien sûr. Cependant, si la route est dangereuse, l'OIM y prend une grande part, puisque l'OIM...
Et la politique sécuritaire européenne la rend plus dangereuse, voilà. c'est ce que vous dites dans votre livre.
Là, hier, l'OIM a inauguré un poste frontière avec le Mali, entre la Guinée et le Mali, financé par l'ambassade de Corée du Sud. Bon, plus on construit des postes frontières, plus on élève les murs, plus on fait pression sur les parlements africains pour qu'ils votent des lois sécuritaires concernant l'immigration, je pense notamment au Niger, plus la route est dangereuse. Donc c'est un petit peu le pompier pyromane. C'est-à-dire que l'OIM à la fois va ériger des murs et à la fois va dire surtout faites attention parce que la route est dangereuse.
Esther Bottasampare, vous êtes italienne, vous êtes installée en Guinée depuis 13 ans. Vous travaillez avec votre mari Abdoulaye Sampare sur la migration depuis 2017, surtout sur des jeunes entre 18 et 30 ans. Vous avez effectué de nombreux entretiens. Comment sont financées vos recherches ?
Donc, nous avons commencé avec un financement local d'une université de Conakry qui s'appelle l'université Koffi Annan, donc qui nous a fait confiance d'abord pour une première enquête qui concernait les projets migratoires et les aspirations de mobilité sociale des jeunes migrants. Et par la suite, nous avons eu l'opportunité d'intégrer des équipes internationales. Donc, un projet financé qui s'appelle Mig Choice, qui a été un grand projet dirigé par l'Université de Birmingham et financé par l'OIM, dans lequel nous avons travaillé, donc moi, mon époux Abdoulaye Sampare et une collègue suisse, Michelle Engeler. Et ensuite, maintenant, on travaille également avec l'Université de Fribourg sur un projet sur les migrants de retour. Donc, fondamentalement, ce sont les trois sources.
Vous entendiez Raphaël Kraft qui parlait de propagande de l'OIM. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en tant que chercheuse, en tant qu'universitaire, c'est un problème d'être financée par l'OIM quand on recueille les témoignages des jeunes sur les mécanismes de la décision pour prendre les routes migratoires, Esther Bottasampare ?
Donc, nous, l'impression que nous avons eue dans les projets, le projet de Birmingham qui était financé par l'OIM et le gouvernement anglais, et ce projet de Fribourg qui est un peu indirectement financé, c'est que l'OIM est effectivement assez intéressé à un retour critique vis-à-vis de ses propres politiques. Après, je ne sais pas ce qu'ils vont faire des résultats de nos recherches, mais... Et, par exemple, dans le dernier projet que nous faisons, qui parle de l'accompagnement, de la manière dont l'OIM rapatrie ou contribue au rapatriement des jeunes qui veulent rentrer, notamment d'Afrique du Nord, vers leur pays, il y a toute une série de questions qui concernent la manière dont ils sont suivis et dont ils sont accompagnés, qui montrent vraiment un intérêt à essayer de voir de manière assez critique si ces accompagnements-là fonctionnent ou pas. Oui. Ah, donc, voilà, dans l'espoir que nos résultats servent à mieux façonner ces politiques de réintégration, espérons.
Vos recherches, à travers vos recherches, vous établissez en fait trois groupes de jeunes candidats au départ. Alors, il y a un premier groupe, on va passer rapidement, ce sont les jeunes de l'élite qui partent faire des études à l'étranger et pour eux, tout se passe bien quand ils ont leur visa étudiant, etc. C'est pas si simple quand même, hein, même pour eux, mais voilà. Oui, les deux autres groupes de jeunes qui n'ont pas la chance de partir légalement faire des études à l'étranger en Europe, quels sont-ils et quel est leur profil ?
Voilà. Donc, effectivement, nous avons essayé d'abord de décomposer cette homogénéité à des migrants. Moi, je suis italienne. Quand on est en Italie, on se dit, voilà, les migrants qui arrivent, sans distinction. Et effectivement, on a vu, comme vous le dites, des profils sociologiques différents. Donc, à part le premier groupe, les deux autres groupes sont ceux qui partent de manière irrégulière, mais de manière différente. Ah, nous avons un premier groupe qui est en général constitué par des jeunes instruits qui ont terminé leurs études, souvent des études supérieures, universitaires, et qui partent en général avec le consentement et le soutien de la famille. Donc ce sont des jeunes qui ne sont pas de milieu aisé, dont les parents ne peuvent pas leur permettre de poursuivre des études à l'étranger à travers les visas, etc. Mais où les parents sont prêts, par exemple, à revendre un terrain, à cotiser entre eux, etc., entre les membres de la famille, pour miser sur l'un des jeunes de la famille qui peut partir et essayer ainsi de travailler à l'étranger. Donc, ces jeunes-là ont des caractéristiques sociologiques précises. Ils sont en général des garçons. Ils appartiennent aux aînés de la famille, donc entre le premier, le deuxième, le troisième grand frère, pour pouvoir ensuite prendre en charge, aider à prendre en charge les jeunes frères. Et ce sont des instruits, parce qu'on dit ici en Guinée que la migration est quelque chose qui va mieux réussir quand quelqu'un est lettré, instruit. Donc, eux, ils partent irrégulièrement, mais avec un appui et un véritable soutien de la part de la famille. Par contre, l'autre catégorie de jeunes, ce sont des jeunes qui partent de manière beaucoup plus individuelle. Ils appartiennent en général à des classes ou des couches plus défavorisées. Donc, ce sont des jeunes qui, en général, pratiquent des métiers dans l'artisanat, dans le petit commerce, ou qui se cherchent en tant que jeunes artistes, jeunes footballeurs, etc. Et qui ont des parents qui sont démunis, qui ne peuvent pas les soutenir. Donc, leur stratégie, c'est d'accumuler, par exemple, avec leur petit métier d'artisan, d'ouvrier, d'apprenti, des petites sommes qui leur permettent de partir par étapes. Donc, eux, ils ne vont pas directement en Europe, mais l'idée, c'est d'aller, par exemple, au Mali, de travailler un peu au Mali, après un peu au Niger, un peu en Afrique du Nord, etc. Et petit à petit, d'accumuler la somme qui va leur permettre de traverser, comme ils le disent.
Rappelons que 90% des migrations sur le continent subsaharien est une migration à l'intérieur du continent. Hein. D'ailleurs, Raphaël Kraft, quand vous vous rendez dans la région des mines en Guinée-Conakry, vous rencontrez des travailleurs d'Afrique anglophone, notamment Sierra Leone, qui sont venus en Guinée alors que les Guinéens eux-mêmes sont partis vers l'Europe.
Vers l'Europe ou vers la Gambie, le Sénégal, vers des diasporas guinéennes telles qu'il peut en exister beaucoup.
C'est ça, voilà. C'était utile de rappeler quand même cette extrême mobilité à l'intérieur même du continent subsaharien. Esther Botta-Sompare, vous nous le disiez, donc ces jeunes partent de manière beaucoup plus individuelle. La route va être d'autant plus longue qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des économies familiales, un terrain familial vendu ou une tontine de la maman. Ça rend leur périple d'autant plus compliqué ?
Oui, tout à fait. D'autant plus compliqué et d'autant plus dangereux. Parce que aux différentes étapes, il faut avoir de l'argent pour pouvoir être, disons, avoir la possibilité de continuer le trajet. Et donc, voilà, cela rend le périple plus compliqué. Lorsqu'on n'a pas l'argent, il faut téléphoner aux parents, se faire soutenir. Ces mêmes parents qui peut-être ne savaient même pas que les enfants sont partis. Souvent, il y a des départs secrets, donc ils ne sont pas. Ils ne sont pas tout le temps prêts, voilà.
Payer des rançons lorsque l'on est en Libye ou aux mains de passeurs. Vous restez bien sûr en ligne avec nous, Esther Botta-Sompare, Raphaël Kraft dans le studio de RFI. Vous avez la parole, les voisins et les voisines, au 33 7 64 45 51 41. On parle des raisons de la migration et nous sommes en ligne avec Yaya qui est à Bamako au Mali. Bonjour Yaya.
Bonjour.
Yaya, vous avez 24 ans, vous avez un diplôme d'enseignant. Pour l'instant, vous n'êtes pas parti. Vous avez dit au Standard que c'était par manque d'argent, Yaya.
Oui. Salut Emmanuel. Salut à tous les voisins et les voisines.
Oui, soyez le bienvenu.
Je voulais partir il y a un peu longtemps, suite au décès de mon grand frère qui assurait le soutien de la famille. Donc, j'ai dû renoncer, mais aujourd'hui, je suis candidat.
Yaya, excusez-moi, pardonnez-moi de vous interrompre, je suis désolée, mais il y a beaucoup de bruit autour de vous. Est-ce que vous pouvez vous avancer dans un endroit un petit peu plus calme ? C'est pour le confort de tous ceux qui nous écoutent.
Oui, ok.
Allez-y, Yaya.
Mais ça va un peu maintenant ?
Oui, tout à fait, allez-y.
Oui. Voilà. Donc, suite à son décès, donc, j'étais obligé de rester, de faire un peu. Mais là, aujourd'hui, je suis prêt vraiment à partir. Mais j'ai des problèmes de moyens pour le moment. En plus, j'aimerais avoir aussi quelqu'un qui pourra me guider en cours de route. Ce n'est pas quelqu'un qui m'attend là-bas. C'est ce problème que j'ai aujourd'hui.
Il vous manque combien d'argent, Yaya ?
Bon, je ne connais pas trop le trajet. Je ne connais pas trop le trajet. 500 000 comme ça, francs CFA comme ça, je pense que ça pourrait faire l'affaire.
Ça veut dire que pour l'instant, vous ne parvenez pas à évaluer exactement la somme qu'il vous faut réunir.
Oui. Il pourrait y avoir quelqu'un qui m'écoute ou qui peut m'aider, je ne sais pas.
Vous êtes
même pas financièrement, mais me guider quand même au moins.
Vous êtes originaire de Sikasso, dans le sud-est du Mali.
Oui.
Pourquoi vous souhaitez partir alors que votre grand frère est décédé ? Je crois que vous êtes soutien de famille, Yaya, c'est ça ?
Non, son grand frère était soutien de famille.
Mais s'il n'est plus là ?
Il n'y a pas assez de moyens. On a beaucoup de choses à exploiter, mais les moyens nous manquent, le matériel, tout ça.
C'est pour ça que vous souhaitez partir ?
Oui, pour améliorer tout ça.
Merci Yaya de nous avoir appelé. Abdoulaye, on n'a plus Abdoulaye en ligne. Esther Botta-Sompare, quel est le rôle de la famille dans le projet migratoire finalement aujourd'hui ? Vous le disiez, pour certains jeunes, la famille exerce un appui. Est-ce qu'il y a une pression ?
Oui, tout à fait. Il y a une grande pression. D'abord, il faut considérer également l'importance de certains conflits familiaux, et notamment qui surgissent dans le cadre de la polygamie, pour expliquer un peu cette pression qui tombe sur les jeunes migrants. Nous, on pense, d'après les recherches qu'on a menées, que la famille n'est jamais là pour dire à un jeune « pars, vas-y ». Le choix est un déclic en général individuel. C'est le jeune qui se dit « voilà, vu la situation de ma famille, etc., il serait bon que j'aille, que je parte ». Mais du moment où ce jeune commence à s'engager et commence à parler de ce projet à ses proches, à ses parents, si ceux-ci peuvent le financer, une forte pression commence à retomber sur les épaules de ce candidat à la migration. Du moment où, dès qu'il s'engage dans cette voie et qu'il commence à essayer de partir et de s'acheminer, on s'attend de lui à une réussite et à un succès. Hein. Je parlais de la polygamie parce que effectivement, on se retrouve dans des situations où il y a des papas qui ont plusieurs épouses et disons que ils ne parviennent pas à prendre en charge correctement toutes ces épouses. Ça se trouve que certaines peuvent être un peu délaissées, etc. Donc les enfants ressentent véritablement la pression d'aider leur mère et leur jeune frère de même mère, et également ils rivalisent avec les enfants de coépouses qui peut-être ont réussi en allant à l'étranger. Donc eux aussi ils veulent partir. Donc il y a tous ces aspects qui contribuent à créer cette pression sur les jeunes migrants, à montrer la migration comme une stratégie de réussite et à montrer aussi un éventuel retour et rapatriement comme un échec, comme quelqu'un qui n'a pas atteint ce qui est espéré et qui revient finalement bredouille après avoir suscité des espoirs et des investissements.
Ce qui peut sembler logique, Raphaël Kraft, vous avez recueilli également des témoignages de jeunes qui vivent des difficultés familiales qui les poussent à partir.
Alors oui, je voudrais rappeler quand même que près de la moitié, en tous les cas, c'était les chiffres entre 2016-2019 de ces jeunes Guinéens qui partent sont des mineurs. Et pour la majorité d'entre ces mineurs, ce sont effectivement des enfants donc qui sont victimes des problèmes qu'évoquait Madame à l'instant, la polygamie, mais également des violences au sein de la famille. Et je pense notamment à la question du confiage, qui consiste à confier un enfant à un oncle qui est à la ville, de confier un enfant à une sœur, de confier un enfant à un marabout également, et que ces enfants se retrouvent dans des situations de travail forcé, voire d'esclavage, et que leur seule solution, c'est effectivement de partir. Et ces enfants qui partent à l'âge de 12, 13 et 14 ans vont avoir effectivement une trajectoire migratoire extrêmement longue, parce que leur objectif au départ n'est pas forcément l'Europe. Et c'est un projet migratoire qui n'est pas défini, qui se situe d'abord à l'intérieur du pays, puis à l'extérieur du pays, dans un pays voisin, pour ensuite se terminer, pour une minorité d'entre eux, faut-il le rappeler, en Libye, en Algérie, au Maroc, et ensuite peut-être en Europe.
Esther Botta-Sampare, est-ce qu'on sait pourquoi il y a autant de mineurs qui partent de Guinée? C'est un pays... Alors bien sûr, l'Afrique de l'Ouest est majoritaire à prendre la route vers l'Europe, mais pourquoi tant de mineurs de Guinée-Conakry?
Bon, nous, dans nos enquêtes, on n'a pas forcément exploré exactement les mineurs, hein. Mais ce que je pourrais peut-être ajouter à ce que M. Kraft vient de dire, c'est qu'il y a également la situation des jeunes apprentis. Les apprentis qui se trouvent dans les ateliers, qui apprennent un métier de menuiserie, de chaudronnerie, etc., se retrouvent également insérés dans une série de rapports d'exploitation avec des longs apprentissages qui peuvent durer, par exemple, jusqu'à 10 ans pour apprendre à devenir chauffeur, à conduire une voiture. Et donc, cela peut les amener finalement à être fatigués de cette situation d'exploitation, de dépendance vis-à-vis de leur maître et à se dire, lorsque je pars, je vais enfin pouvoir exercer un travail plus stable et être en possession de mes recettes, etc. Donc, voilà.
Ce qui prouve bien que quand on dit, vu d'Europe, que si on donne un métier aux jeunes, ils seront moins tentés de prendre la route, ça montre bien les limites de ce type d'analyse. Vous pouvez bien sûr nous appeler où que vous soyez dans le monde, quelle que soit votre situation. On parle de la migration, des raisons qui poussent à prendre la route. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On va marquer une pause musicale et puis on va se retrouver bien sûr avec vous, Raphaël Kraft. Vous publiez Les enfants de la Clarée. On écoute Ouvrez les frontières, Tiken Jaffa Coli et Soprano.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. comme l'hiver. Et nous, on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout, peu importe. On veut partir, alors ouvrez-nous la porte.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus.
C'est 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI avec Raphaël Kraft, grand reporter qui publie Les Enfants de la Clarée. Vous avez refait la route en sens inverse des Alpes, frontières italiennes, franco-italiennes. Route pour les migrants jusqu'à la Guinée-Conakry. On vient d'entendre Tiken Jaffa Coli avec ce texte. Il ne fait pas partie des artistes financé par l'Union européenne et l'Organisation des migrants, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OMI.
L'OIM. Non, Tiken Jaffa Coli que j'ai rencontré il y a quelques mois. Non, il n'est pas financé, mais c'est quand même très drôle que donc il y a une dizaine d'années, il sorte cet album et cette chanson, ce tube qui s'appelle Ouvrez les frontières, alors que son dernier album est au contraire tout à fait dans la lignée des messages qui sont encouragés par l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations, à savoir l'idée d'une sédentarité heureuse. Et aujourd'hui, Tiken Jaffa Coli, qui est par ailleurs archétypique du chanteur mondialisé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de prendre l'avion, d'aller en Europe,
ouais, enfin,
d'aller
vit à
aux
Bamako,
États-Unis.
Hein,
oui, non, certainement, ouais. Certainement. C'est quelqu'un qui est mobile, tout comme Youssou N'Dour, etc. Et il nous sort un album où effectivement il incite la jeunesse africaine à rester au pays pour travailler, etc.
Donc alors sous-entendu, que, vous dites que c'est facile de dire aux jeunes rester en Afrique quand on peut prendre l'avion et avoir une vie de migration pendulaire en permanence. C'est ce que vous voulez dire.
Oui, c'est d'une malhonnêteté crasse, dirais-je. Je veux dire, Rokia Traoré, sa chanson, un de ses derniers tubes a été financé par le ministère italien de l'Intérieur. Le premier artiste, et pour le coup vraiment mondialisé, lui, c'est Youssou N'Dour, qui a été financé par le ministère espagnol de l'Intérieur pour inciter ses compatriotes sénégalais à ne pas traverser. Ce que je veux dire par là, au-delà de la responsabilité de ces artistes, donc à qui on finance des clips...
Et de leur liberté de créer, où est-elle dans ces cas-là ?
Et de leur liberté de créer, puisque pour ce qui concerne le groupe guinéen d'Exjiforcery, leur chanson « Falé » a été co-écrite avec les membres du bureau guinéen de l'OIM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je demandais à la directrice de l'OIM en Guinée à l'époque, est-ce que vous avez beaucoup d'artistes qui viennent pour vous proposer des chansons sur la migration ? Elle me dit oui, évidemment. Bah oui, évidemment, puisque si vous écrivez sur la migration et sur pour combattre combattre la migration irrégulière, bah, vous allez recevoir des fonds européens. Donc c'est assez inquiétant, puisque le résultat de tout ça, c'est que l'Union européenne, l'OIM ont constaté que l'érection des murs, que ce soit à Ceuta, Melilla, les murs naturels, la Méditerranée, les Alpes, ne suffisaient pas, et qu'effectivement, il fallait changer la perception de la jeunesse africaine sur la possibilité ou non de voyager. Et aujourd'hui, ça n'est pas seulement le message d'une sédentarité heureuse qui est proposé par l'OIM et l'Union européenne, mais c'est aussi une forme de patriotisme. Une forme de patriotisme où, en restant au pays, on va pouvoir le construire, etc.
Alors que Ce patriotisme est partagé par de nombreux Africains qui ne sont absolument pas financés par l'Union européenne.
Bien sûr.
À commencer par Paul Kagame, par exemple.
Ce que je veux dire, enfin, en l'occurrence, Paul Kagame, il reçoit des réfugiés de Libye financés par l'Union européenne. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme si la migration était un frein au développement, alors qu'au contraire, enfin, je veux dire, c'est par la migration qu'on va développer son pays.
Mais il y a tout de même des Africains qui ont le droit de penser qu'on est plus heureux sur le continent africain quand on développe une carrière d'entrepreneur, par exemple, et qu'on contribue au développement de son pays, plutôt que quand on prend une route ultra risquée et que l'on survit de manière extrêmement aléatoire et précaire en Europe.
Évidemment.
Sans qu'on puisse les soupçonner d'être vendus aux intérêts européens.
Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que oui, vous pouvez rester dans votre pays pour y travailler, c'est merveilleux. Mais vous avez le contribuable européen qui finance des campagnes pour inciter cette jeunesse à la sédentarité et promouvoir une migration digne et sûre. Ça, ce sont les messages de l'OIM. Qu'est-ce que ça veut dire, une migration digne et sûre pour un jeune Africain aujourd'hui ?
Alors justement, on va donner la parole.
Ça veut dire être dans l'incapacité d'obtenir un visa. Ça veut dire d'être condamné à rester dans son pays jusqu'à la fin de ses jours.
On va donner la parole à une personne qui a pris la route. Eladj Mohamed Diallo, bonjour.
Allô, bonjour.
Eladj Mohamed Diallo, vous êtes le président de l'association des Guinéens contre la migration irrégulière. Vous êtes en ligne avec nous. Vous avez quitté la Guinée à 27 ans. Vous étiez diplômé de l'université en sciences économiques. Votre parcours sur les routes migratoires a duré combien de temps ?
Bonjour et merci à tous les fidèles auditeurs des RFI. Merci de m'avoir donné la parole. Et moi, je dis mon parcours a duré 2 ans parce que j'ai passé par le Mali, le Niger, l'Algérie, le Maroc, après Maroc, Algérie, Libye, voilà. Voilà, ça a duré 2 ans.
Vous avez été kidnappé à Sabrata, rançon payé par la famille, prison, de nouveau rançon, route vers le Niger. Vous avez été pris en charge par l'OIM. Comment vous étiez perçu quand vous avez été rapatrié en Guinée et pourquoi vous avez décidé d'être rapatrié ?
Au fait, qu'est-ce qui nous a motivés pratiquement de revenir ? Parce que nous avons constaté d'abord, et ce qui pousse essentiellement les jeunes, il y a le rôle des diasporas, qui jouent un rôle important, et aussi les jeunes manquent d'informations. On s'est dit, ok, nous, on a été, on s'est dit, quand on revient, il faudra que nous puissions informer d'abord la jeunesse, quelles sont les fausses informations qui sont données par la diaspora, parce que vous imaginez, après la vague migratoire, c'est lorsque les réseaux sociaux ont eu l'explosion de la c'est lorsqu'il y a eu l'explosion des réseaux sociaux que le monde, la jeunesse africaine a commencé vraiment à migrer vers l'Europe, parce qu'en donnant des fausses informations, en les vendant une illusion.
Ça, c'était il y a plusieurs années. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez réellement que la jeunesse africaine est mal informée sur les routes migratoires et sur leurs dangers, honnêtement?
Voilà. On s'est dit, nous, on a vu ce qui s'est passé. Et ce qui se passe, et quelles sont les mauvaises informations qu'on donne, et quelles sont l'illusion qu'on vend à la jeunesse. On s'est dit, ok, il faut revenir au pays et mettre une barrière. Même si les jeunes vont partir, parce que tu ne peux pas dire à un jeune qui n'a pas une prise en charge de ne pas partir. Mais en partant, dites-lui, voici les dangers que vous rencontrez. Si vous décidez de rester, il y a des opportunités que vous laissez ici. En partant, c'est les opportunités là que vous laissez. C'est ce qui nous a poussé à revenir. Lorsque nous sommes revenus, on s'est dit, ok, on peut se constituer, parce que chacun de nous a une histoire à partager à la jeunesse et chacun de nous a une expérience. Via cette expérience et cette histoire, peut-être même si on ne va pas décourager à 100% la jeunesse, mais ils seront informés au moins à 90%. Mmh. C'est ce qui nous a
Votre association, El Hadj Mohamed Diallo, comment elle est financée?
Au fait, pour le moment, on n'est pas financé directement, pour ne pas mentir. OGLMI n'a pas un financement direct. Mais il y a OIM qui est venu en aide en plus, la prise des locaux, parce que c'est l'OIM qui a payé le local pour nous permettre au moins de pouvoir exercer nos activités. C'est l'OIM qui a pris le local pour nous depuis 2013. Mais disons, en termes d'activité, on a quelques partenaires, par exemple, la délégation de DOCSN qui nous permet, par exemple, d'assister quelques migrants qui reviennent potentiellement et qui reviennent de façon spontanée. Parce que, vous savez, nous, on reçoit trois types de catégories de migrants. Il y a les migrants qui reviennent au compte de l'OIM, qui sont directement bénéficiaires de l'OIM. Il y a ceux qui reviennent de façon spontanée, soit ils sont assistés par leur propre famille, ou bien c'est eux-mêmes qui financent leur retour. Mais au retour, quand ils reviennent, ils n'ont aucun sou. Il y a ceux qui ont été expulsés via le Maroc, l'Algérie et d'autres pays. Donc nous recevons tous ces types de migrants. Donc, ceux qui reviennent au compte de l'OIM seront bénéficiaires d'un projet de réintégration par OIM. Mais ceux qui reviennent de façon spontanée et ceux qui ont été expulsés, donc nous sortons, par exemple, la délégation qui est là, qui accompagne quelques migrants. Donc, à travers ce projet, on assiste quelques migrants.
Raphaël, restez en ligne avec nous, hein, El Hadj Mohamed Diallo. Raphaël Kraft, vous dénoncez une campagne de propagande financée par l'Union européenne en Afrique et en Guinée particulièrement, via l'OIM. Vous citez notamment des pressions à l'égard de migrants retournés plus ou moins d'ailleurs volontairement, et ensuite des pressions pour qu'ils s'engagent à témoigner de la difficulté et de l'échec assuré des routes migratoires vis-à-vis de la jeunesse qui est restée au pays.
Alors, d'abord, expliquer à l'OIM, aux auditeurs, en quoi consistent les retours volontaires. Hein. C'est un programme qui est financé et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations. Donc ce sont des ressortissants de tous les pays d'Afrique de l'Est ou occidental qui sont dans des camps en Libye, qui sont dans des situations extrêmement difficiles en Libye. Et puis on vient les voir dans les camps, sachant que dans les camps, il faut savoir qu'ils n'ont pas accès à des conditions sanitaires dignes et normales. Ils mangent une fois par jour, ils boivent de l'eau saumâtre. Et donc les représentants des autorités consulaires de ces pays subsahariens viennent les voir en leur proposant de les sortir de cette enfer pour les ramener au pays. Donc, il n'a de volontaire, enfin, c'est pas vraiment volontaire ces retours, en ce sens que, selon le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, un retour volontaire ne doit être exercé sans pression. Or là, il y a des pressions. Alors, quand ce ne sont pas les conditions dans les camps en Libye, ce sont des pressions du DCIM, donc le ministère libyen de l'Intérieur, pour obliger ces gens effectivement à rentrer. Lorsqu'ils rentrent, on leur promet monts et merveilles. Il y a tout un tas de communications qui sont faites sur les opportunités professionnelles qu'on va leur proposer, avec dans une novlangue tout à fait néolibérale du style ils vont être livreurs des Deliveroo à Mamou, quoi. C'est-à-dire qu'on va leur financer une moto, les aider à financer une moto, et c'est précisément pour ces raisons qu'ils sont partis. Et on va dire qu'ils vont faire de la logistique de proximité entrepreneuriale, ce genre de truc. Et donc effectivement, lorsqu'ils rentrent en Guinée, ils sont dans une situation très difficile, psychologique, hein, c'est un échec. Et moi, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés n'ont pu obtenir d'aide pour
financière,
une poursuite financière ou pour la poursuite de leurs études.
Donc financière, c'est ce à quoi aspirent les jeunes, notamment.
Oui, ou médical, parce qu'ils rentrent dans un sale état quand même. Hein. Quand effectivement participant à des campagnes telles que l'association de Mohamed El Hadj Mohamed Diallo, laquelle, je le rappelle, a été montée de toutes pièces par l'Union européenne et l'OIM. Parmi les financements, il y a également l'ambassade d'Allemagne. J'étais présent, moi, lors de l'inauguration des locaux. Avec toujours ce message pour une migration digne et sûre. Or, ce que l'on constate, c'est que suite au sommet de La Valette, les 11 et 12 novembre 2015, sur le fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, pour lutter contre les causes profondes de la migration, il y a le volet légal, c'est-à-dire de la migration légale. Or, sur le terrain, il est complètement marginal. Et aujourd'hui, il n'y a pas plus de gens qui peuvent se déplacer de Guinée jusqu'en Europe qu'il n'y en avait en 2015.
On accueille un auditeur qui nous appelle au 33 7 64 45 51 41. John est au téléphone avec nous de Yaoundé au Cameroun. Bonjour John.
Bonjour Emmanuel.
Soyez le bienvenu. Vous avez tenté l'aventure, comme vous l'avez dit, pour la Belgique. C'était en 2018. Et vous êtes revenu. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, j'ai failli perdre ma vie en route. Parce que j'ai décidé de quitter. Parce que je ne pouvais plus supporter le fait de voir ma famille souffrir. Oui. Bon, j'ai décidé de prendre la route pour me rendre en Europe, dont ma destination était la Belgique. Bon, quand je suis arrivé en Algérie, bon bref, lorsqu'on a traversé la ville de Tamaracette, et on a eu un accident où j'ai perdu deux de mes camarades, et là, j'ai eu un déclic, j'ai décidé de rentrer.
Aujourd'hui, John, vous êtes rentré au Cameroun, aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez repartir? Est-ce que vous préparez un nouveau départ ou pas?
Oui. Parce que quand je suis rentré depuis 2018, rien n'a changé. C'est toujours pareil.
Dans votre pays?
Oui. On peine à se nourrir et tout et tout.
Oui. Donc, votre témoignage est édifiant. Merci de nous avoir appelé, John. Parce que ce que vous démontrez, ce que vous souhaitez faire passer comme message, Raphaël Kraft, c'est que les politiques à l'heure actuelle de l'Union européenne, de l'OIM, sont, alors vous les jugez iniques, en tout cas au minimum, elles sont inefficaces.
Ah oui.
Pour dissuader les jeunes de partir.
Non, mais surtout, elles sont. C'est-à-dire qu'on part du postulat que nous sommes face à une jeunesse qui ne sait pas ce qu'elle fait. Donc qu'il faut l'instruire, qu'il faut la renseigner. Comme si un jeune, et le témoignage de l'auditeur à l'instant est édifiant, comme si un jeune ne savait pas ce qui allait lui arriver sur la route. Évidemment qu'il est important d'informer sur les dangers de la route. Évidemment que je pense notamment à tout le travail qui a été fait par les Briançonnais pour informer les jeunes de l'autre côté du col sur les dangers d'un col. Mais on ne les empêchera pas de passer. Ça coûte beaucoup d'argent. Et puis, c'est surtout cette idée selon laquelle cette jeunesse est ignorante et il faut l'informer. Ça a quelque chose d'un peu colonialiste, il me semble.
Eladj Mohamed Diallo, qu'est-ce que vous pensez de ce dialogue, vous qui êtes président de l'Organisation guinéenne pour la lutte contre la migration irrégulière, une organisation, Raphaël Kraft le disait, qui est largement financée par l'Union européenne, l'OIM. Est-ce que finalement, vous, votre retour, le fait que vous soyez un migrant retourné, vous a donné un statut aussi enviable que celui d'un migrant qui fait construire sa maison à distance, le fait que vous soyez président de cette association aujourd'hui, Eladj Mohamed Diallo?
Okay. Moi, je vais dire d'abord, si Raphaël dit que nous sommes financés intégralement par l'Union européenne et l'OIM, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Mm. Parce que, imaginez, depuis 2018, nous sommes là. On travaille matin, midi, soir. Mais nous vivons du bénévolat. On ne reçoit aucun fonds directement de l'OIM. C'est vrai, OIM a pris le local. Ils nous ont aidés. Parce que ce qu'on faisait sur le terrain, on n'avait pas un soutien. C'est vrai, OIM
Mais alors, de quoi vous vivez, du coup, Eladj Mohamed Diallo? Comment vous faites pour vivre si vous n'êtes que bénévole?
Pour le moment, c'est des bénévoles, en fait. Parce qu'on a un projet qu'on mène avec OIM, qu'on appelle Migrant as Messenger. Je me rappelle, oui, il y a Raphaël qui avait fait un reportage par rapport à ce projet. Mais ça, c'est un truc. C'est des bénévoles. Le projet est fini depuis 2019.
Du coup, vous faites quoi comme travail pour gagner la vie de votre famille, Eladj Mohamed Diallo?
Pour le moment, c'est quand on sort. Moi, pratiquement actuellement, je peux dire que j'ai un contrat avec OIM, un contrat des journaliers. Mais imaginez, un bon nombre de migrants qui sont là.
D'accord.
Voilà, parce qu'on a un centre, on est en train de gérer un centre. C'est une bibliothèque qu'on a mis en place en collaboration avec OIM, mais c'est un centre d'accueil et d'orientation.
Esther Botta, comment faire en sorte, à l'issue de tout ce qu'on vient de se dire dans l'émission, comment faire en sorte que les jeunes y voient plus clair pour prendre leur destin en main, alors qu'on comprend bien finalement que de toutes parts, le sujet est complètement instrumentalisé du côté des autorités de l'Union européenne, OIM, mais du côté aussi d'ailleurs des mafias de passeurs, etc.
Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'il faut d'abord essayer d'encadrer peut-être le problème de manière un peu différente par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Peut-être on a tendance à penser que les gens partent pour fuir forcément une situation très difficile de pauvreté, de conflit, etc. Ce n'est pas faux, mais il y a d'autres raisons qui poussent les jeunes à partir et ce sont véritablement des aspirations de mobilité sociale. La plupart des gens avec lesquels nous parlons viennent de familles où ils n'ont aucun problème à se loger et se nourrir. La famille vraiment donne un rempart de solidarité, etc., qui les met à l'abri vraiment des besoins. Mais l'aspiration de tout un chacun, de tout jeune, de tout homme, c'est de réaliser certains projets socio-économiques en Guinée. Par exemple, la construction d'une maison, par exemple, le fait de pouvoir financer ses petits frères, ses petites sœurs et d'accéder à ce que Mohamed Timera, un sociologue, appelle la majorité sociale.
Oui, mais finalement, comme dans tous les pays du monde, hein, finalement, c'est de trouver sa place dans la société, d'avoir une vie pas trop compliquée.
Tout à fait. Rembourser sa dette vis-à-vis des parents qui ont tant fait pour nous, qui ont investi pour nous, etc. Et devenir une personne importante au sein de la famille qui peut jouer un rôle, je ne dis pas de pilier, mais un rôle important d'aide aussi aux membres de la famille. Donc, il est vrai qu'avec des petites stratégies de retour, genre on donne une moto, on fait le petit entrepreneur, etc., peut-être on met l'individu à l'abri d'une pauvreté immédiate, mais il ne s'agit pas de la création d'un travail, d'une opportunité de travail stable, rémunératrice, qui peut lui permettre de réaliser ces projets-là en Guinée. Parce que la plupart des gens avec lesquels on parle nous disent, si nous avons ici une situation dans laquelle nous pouvons atteindre ces objectifs, donc pas se loger, se nourrir, mais atteindre ces objectifs socio-économiques, finalement, la migration nous intéresse pour le tourisme, comme le font les Européens, pour nous promener, etc. Mais voilà, c'est le fait de ne pas arriver à satisfaire ce type de besoins et d'aspirations.
Merci. Merci Esther Botta Sampare. Je précise que vous êtes anthropologue à l'université de Cancan. Merci d'avoir participé à l'émission. Raphaël Kraft, il faut lire votre récit. Les enfants de la Claret, et c'est paru chez Marchiali. Et merci aussi à Eladj Mohamed Diallo d'avoir été en ligne avec nous, président de l'organisation guinéenne pour la lutte contre la migration irrégulière. Demain, 7 milliards de voisins, Chantal Leroux présentera l'émission Que faire des enfants de Daesh. Vous aurez la parole d'ailleurs. Et on se quitte avec un choix musical en soutien aux journalistes français enlevés au Mali, à Gao, il y a presque 2 mois, Olivier Dubois. RFI consacre une partie de ses antennes, vous le savez, à relayer la mobilisation pour sa libération. Voici une chanson du père spirituel de la Soul, Sam Cooke, un artiste qu'Olivier Dubois affectionne particulièrement. Et on espère qu'il pourra l'entendre où il se trouve en détention. A change is gonna come. I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't
It's been a long time coming, but I know a change gonna come.
7 milliards de voisins, c'est fini.